Dieu est-il un Dieu proche ou un Dieu lointain ? La question est plus compliquée qu'il n'y paraît. A priori, vous allez dire, la réponse, elle est simple. Évidemment, Dieu est un Dieu proche. Et c'est vrai que, surtout dans nos églises de la Réforme, on prêche un Dieu proche depuis 500 ans. Un Dieu qu'on tutoie, un Dieu auquel on peut s'adresser sans intermédiaire, que ce soit humain ou céleste ou autre, un Dieu auquel on peut tout dire et un Dieu qui nous accueille inconditionnellement, Dieu qui est plus un tendre père qui nous ouvre ses bras qu'un juge terrifiant pour lequel on voudrait demander l'intercession de quelques personnes plus douces, un Dieu qui nous accueille, un Dieu de grâce, de pardon, et qui n'est pas un juge redoutable, un monarque très éloigné sur un ciel terrifiant. Et puis surtout, il y a cette prédication de Jean-Baptiste, qui est donc reprise par Jésus, et en effet, les premiers mots de la prédication du Christ dans l'Évangile, ce ne sont pas, comme je l'ai dit souvent, les béatitudes de Matthieu, non, les premiers mots de la prédication du Christ, juste après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, et qu'il reprend la prédication de Jean-Baptiste, et ses premiers mots, c'est « Le royaume de Dieu s'est approché ». Et voilà que, effectivement, lors d'une préparation de mariage, un couple me dit « Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le royaume de Dieu s'est approché ?» Alors là, c'est un peu embêtant, parce que la réponse, elle n'est pas simple. D'abord, il y a une première hypothèse, qui est la première à laquelle on pense, c'est de dire que ça l'a fait référence à une fin du monde imminente, c'est-à-dire une sorte d'apocalypse qui arriverait bientôt. En effet, les disciples, en tout cas de Jésus, croyaient que la fin du monde allait arriver incessamment. On le voit dans les Actes des Apôtres, les disciples vendent tout, ils mettent tout en commun, ils ne font plus que prier parce que la fin du monde va être tout de suite, le Fils de l'homme va revenir et donc il va prendre les justes avec lui. Donc si la fin du monde est tout de suite, ce n'est pas la peine d'avoir des biens ni de travailler. Les disciples se sont trompés évidemment. La fin du monde n'est pas arrivée, tout le monde s'est trouvé très embarrassé, les premiers chrétiens qui avaient tout vendu se sont trouvés dans une misère noire. Paul devait faire la quête dans tout le bassin méditerranéen pour dire aux gens « Arrêtez, travaillez, faites des enfants, mariez-vous, et puis donnez votre argent pour les pauvres de Jérusalem, qui les andouillent, qui n'ont plus rien. » Enfin, il ne le disait pas comme ça, mais c'était pas loin. Et donc, les disciples, eux, croyaient à une fin du monde imminente. Donc, quand Jean-Baptiste et Jésus dit « Le royaume de Dieu est proche », ça veut dire « Tremblez, pécheurs, le royaume, la fin du monde est proche », c'est peut-être ça. La question, c'est si les disciples se sont trompés, admettons, est-ce que Jésus s'est trompé sur ce point ? Est-ce que Jésus croyait à une fin du monde imminente, à une apocalypse qui arriverait tout de suite ? La question est très débattue chez les théologiens, et en particulier Albert Schweitzer, que j'apprécie beaucoup pour d'autres raisons, prêchait, a écrit tout un livre expliquant que Jésus était dans le cadre d'une eschatologie conséquente, c'est-à-dire qu'en fait Jésus, toute sa vie, croyait que la fin du monde arriverait et qu'elle n'est jamais arrivée, donc en fait il s'est trompé depuis le début. Ce serait quand même un problème, hein. Si Jésus s'est trompé sur ce point, que vaut l'Évangile ? Parce que la question n'est pas du tout la même. Si la fin du monde est demain, je ne vais pas agir de la même manière que si c'est au-delà de ma mort. Alors moi, je pense que Jésus ne s'est pas trompé. Et j'ai des preuves, enfin j'ai des éléments quand même qui me font penser à cela. C'est que d'abord Jésus invite au mariage. Bon, si la fin du monde est demain, ne vous mariez pas, ne faites pas d'enfants. Il invite à l'engagement dans le monde. Dans la parabole des talents, il dit qu'il faut confier son argent au banquier. Bon, choisissez bien par les temps qui courent, hein, méfiez-vous, mais en tout cas, si la fin du monde c'est demain, c'est pas la peine de faire des plans d'épargne. Hein. Et puis, surtout, il guérit les malades, il ressuscite des morts, enfin, c'est ce qu'on nous dit. Or, si la fin du monde, c'est demain, et que vous êtes un peu boiteux ou borgne, c'est pas grave, hein, de toute façon, tout ça va être arrangé. Et donc, en fait, je pense que cette histoire de fin du monde qui arrive, c'est une erreur des disciples et pas de Jésus. Donc, comprenons-le autrement. Et on peut comprendre cette fin du monde s'est approchée, non pas comme l'annonce d'une eschatologie conséquente, vous disais-je, mais comme ce qu'on appelle une eschatologie réalisée, C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est pas l'Apocalypse ou la fin du monde, mais c'est tout ce qui est en lien avec Dieu. C'est Dieu et tout son petit monde, c'est-à-dire c'est le domaine du spirituel, c'est le domaine de l'invisible, c'est le domaine du divin, du religieux. Et en fait, cette fin du monde et même cet apocalypse dont il est question dans les synoptiques ne parle pas d'un futur hypothétique avec une catastrophe, un cataclysme et tout ça, mais c'est un événement auquel nous sommes invités dès à présent à participer. C'est-à-dire que cet apocalypse, bien comprise spirituellement, doit être vu comme l'événement bouleversant de notre vie, où nous accueillons une dimension spirituelle, et certes ça peut entraîner quelques bouleversements, parce que quand on croit plus dans l'amour du prochain que dans son propre égoïsme, ben ça demande de repenser un peu sa vie autrement, bon. Et puis ça suppose de faire mourir l'ancien homme, comme dit Paul, c'est-à-dire l'injustice, l'égoïsme, la jalousie, la violence, l'envie et d'autres choses, et voilà. Alors quand il dit ce moment du royaume de Dieu est imminent, ce que veut dire peut-être Jean-Baptiste et Jésus, c'est de dire n'attendez pas la fin du monde pour vous mettre en règle avec Dieu, c'est maintenant que vous devez le faire. Voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite, là, maintenant. Posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes avec Dieu? C'est le moment ou jamais. Si vous ne posez pas la question aujourd'hui, vous vous la poserez quand? Peut-être jamais, ce serait quand même dommage. Et donc c'est maintenant, c'est tout de suite. Et donc justement, ne reportez pas cette question de l'apocalypse ou du jugement dernier, de tout ce que vous voulez, pour un au-delà totalement hypothétique que vous ne connaîtrez pas. C'est maintenant. Et posez-vous la question de votre relation à Dieu, de votre engagement dans le monde, et posez-vous la question du jugement dernier, pas pour aller en enfer ou au paradis, mais de juger dans votre vie qu'est-ce qui mérite d'être gardé et qu'est-ce qui ne vaut rien, qui voudrait mieux tout de suite se débarrasser. Et c'est effectivement, donc, quand il dit « le royaume de Dieu s'est approché », c'est ça, il dit « c'est maintenant le moment de vous mettre en règle avec Dieu ». C'est d'ailleurs aussi ce que dit l'Apocalypse de Jean, hein, que je lis entièrement comme ça, d'ailleurs, symboliquement. Dans Apocalypse 10, 6, la voix céleste dit « il n'y a plus de délai ». C'est-à-dire, justement, c'est tout de suite, c'est même pas dans 20 ans, c'est là, maintenant, en ce moment-là, dans votre cœur. C'est maintenant que ça se joue, n'attendez pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est conforme avec la venue de Jésus-Christ. En effet, les Juifs attendaient le Messie. Et ils disaient, ah ben, de ces jours, il y a quelqu'un qui va venir et qui va accomplir les promesses de Dieu, puis là, tout va changer. Pour l'instant, on attend, on attend, on attend, on attend. Et Jésus, disant qu'il est le Messie, dit, mais attendez, arrêtez d'attendre. C'est maintenant que ça se joue. Et Dieu, il peut vous combler de tous ses dons, maintenant. Et c'est maintenant qu'il peut vous donner la paix, qu'il peut vous donner l'accomplissement de votre être. Et c'est maintenant que vous êtes invité à aimer votre prochain et Dieu de tout votre cœur. Et c'est maintenant qu'on est tellement dans la présence de Dieu qu'il n'est même plus question de rites, d'obligations, de règles, de morale, de machin, etc. Vivez de la présence de Dieu, ça vous est offert. Donc c'est maintenant, Dieu donne tout de suite tous ses dons, ses promesses ne sont pas pour plus tard, mais c'est maintenant, maintenant et maintenant, et c'est maintenant aussi à nous d'accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est ça, deuxième lecture, donc le royaume de Dieu s'est approché, c'est maintenant, le moment ou jamais, de gérer votre relation à Dieu et de vivre cet apocalypse. Et puis enfin, troisième lecture. Bon, la première, je la rejette. La deuxième, je l'admets. Oui, ça marche. La troisième, encore plus touchante, c'est de dire, mais justement, le royaume de Dieu, c'est tout ce qui concerne Dieu, quoi. C'est le divin, le spirituel, et de dire, ben, toute cette dimension spirituelle, elle s'est approchée, elle est là. Et donc, c'est précisément l'annonce, justement, d'un Dieu proche. Alors ça, c'était une révolution, hein, par rapport à la théologie des pharisiens ou d'une certaine théologie de certains passages de l'Ancien Testament, pas tous, hein. c'est qu'on avait à ce moment-là, dans le judaïsme orthodoxe en tout cas, l'idée d'un Dieu créateur, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu éloigné, d'un Dieu qui juge, d'un Dieu qui peut faire vivre et mourir, qui peut guérir et rendre malade, enfin d'un Dieu terrifiant en fait, hein, ce Dieu terrible, et dont on s'approche avec tremblement et on essaye de redoubler de justice, d'actes religieux, de pratiques, de sacrifices, de rites, pour essayer de se mettre un peu en règle avec ce Dieu terrible. Et Jésus arrive en disant, mais non, c'est pas ça du tout. En fait, ce Dieu, il n'est pas là comme un Dieu lointain, mais au contraire, c'est un Dieu tout proche, et c'est un Dieu qui est là, et qui vous aime tendrement, c'est un Dieu qui n'est pas comme un juge, mais qui est comme un père, comme une mère, comme un parent, le plus proche possible, et qui est prêt à vous écouter, prêt à vous pardonner, et à qui on peut tout dire. Et c'est d'ailleurs ce que fait Jean-Baptiste, hein, vous savez. On nous dit qu'il plongeait les gens dans l'eau par le baptême. Enfin, c'était un baptême, c'est pas celui qu'on vient de faire, c'est un baptême juif de purification. Et il disait aux gens, reconnaissez vos fautes. Et donc, et ensuite, il les plongeait dans l'eau en signe de pardon. Voilà ce Dieu incroyable. C'est plus un Dieu qui juge, mais c'est un Dieu qui pardonne. Et c'est un Dieu auquel on peut tout dire. Je peux même lui dire mes fautes. Alors sinon, je vais essayer de les cacher, il les voit pas. Je peux dire mes fautes parce que je peux tout dire à Dieu. Et quand je dis tout à Dieu, ce Dieu il me dit « Mais mon enfant, je t'aime et je te pardonne, je te lave à jamais et je te donne la grâce. » C'est quand même une vision incroyable, c'est un Dieu étonnant. Et je crois qu'il n'y a même pas beaucoup de religions dans le monde qui ont justement un tel Dieu de grâce, de tendresse, de pardon, de douceur et de bonté. Et vraiment, ça c'est le trésor, je pense que c'est vraiment le trésor du christianisme et de la prédication de l'évangile. Donc Dieu s'est approché de nous, c'est Dieu lui-même qui se rend proche, en Jésus-Christ. Ah, alors, comment Jésus-Christ nous rend-il Dieu proche? Alors là, ça va devenir encore un peu plus compliqué. Ça dépend de votre théologie. Et donc, de même que, vous savez, il y a des livres dont on dit, si vous croyez ceci, allez à page 237, si vous croyez aux choses, allez à page 540. Je vais vous dire, premièrement, si vous croyez que Jésus est Dieu, restez, sinon endormez-vous quelques minutes, je vous réveillerai tout à l'heure. Si vous croyez que Jésus est Dieu, ben Dieu s'est approché en Jésus-Christ par l'incarnation. C'est-à-dire que Jésus est l'incarnation de Dieu, et par conséquent, en Jésus-Christ, on voit un Dieu qui ne reste pas dans son ciel, mais qui descend jusqu'à nous, qui est prêt à assumer notre humanité, et qui se rend présent parmi nous dans une forme semblable à nous. Ça, c'est complètement dingue, si vous voulez, hein. Justement, un Dieu qui cesse d'être lointain et qui descend même de son ciel, si vous voulez. Un Dieu qui vient jusqu'à nous pour vivre avec nous. C'est un Dieu qui nous visite d'en haut et qui vient avec nous pour partager nos joies, partager nos peines, partager notre vie et même partager la souffrance et même partager notre mort physique. Et même qui accepte de venir pour nous. Et donc Jésus-Christ peut-être vu vraiment comme cela, c'est justement la révélation d'un Dieu qui s'incarne et d'un Dieu qui est fondamentalement présent au cœur même de l'humanité. Maintenant, je réveille ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Les autres, vous pouvez vous rendormir. Et si vous croyez que Jésus est le porte-parole de Dieu, qui a incarné sa parole, un humain très proche de Dieu, qui nous a dit un message formidable, eh bien, ça fonctionne quand même. Parce qu'on peut dire que en fait, effectivement, Jésus, dans tout son évangile, témoigne d'un Dieu proche. Et finalement, tout ce dont Jésus va parler tout le long de sa prédication, c'est justement d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui se préoccupe de nous, d'un Dieu infiniment compréhensif, même avec nos faiblesses, d'un Dieu qui n'est pas jugeur, comme Jésus ne l'a pas été vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis des prostituées, et d'un Dieu qui est vraiment tellement accueillant pour nous tous, sans faire de distinction, sans faire de jugement, sans rien. Toute la prédication du Christ, c'est ça. C'est un Dieu qui vient vraiment nous, qui nous aime, quoi, tout simplement, et qui est au plus proche de nous et le plus compréhensif du monde. Et cette annonce d'un Dieu père, d'un Dieu proche, d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui accueille, qui ne condamne pas, ça change tout. Enfin, c'est extraordinaire quand même. C'est vraiment révolutionnaire, si vous voulez. Bon, en même temps, c'est vrai que ce Dieu nous aime et il a une grande ambition pour nous. Il est, Jésus ne fait pas que dire Dieu se fiche de tout, il est exigeant, il a un idéal très élevé, parfois même trop. Mais ça, c'est aussi une preuve d'amour et de proximité. De même que quand des parents baptisent leur enfant, ils donnent un signe d'amour, mais aussi ils ont aussi des vœux et des souhaits pour cet enfant, et c'est normal. Et donc voilà, cette prédication du Christ, un Dieu soit qui nous actualise, un Dieu proche, soit qui nous témoigne et qui nous prêche un Dieu infiniment proche, c'est le trésor du Christ et de l'Évangile. Alors ça vous semble évident tout ce que je vous dis, parce que vous avez l'habitude des prédications chrétiennes, ça vous semble évident que Dieu soit tout proche. En fait, ça ne l'est pas du tout, je vais vous dire, ça ne va pas de soi. D'abord, petit argument logique, quand Jésus, comme Jean, dit « le royaume de Dieu s'est approché », c'est que par nature, il ne l'est pas. Sinon, il dirait, vous savez, on a oublié de vous le dire, mais le royaume de Dieu, il est proche. Il dit non, il s'est approché, il se rend proche. Et donc, ça veut dire que ça ne va pas de soi. Et par conséquent, il y a un changement. Alors, soit c'est par rupture, comme je vous l'ai dit, à la religion des pharisiens qui prêchaient un Dieu éloigné. Donc, il dit maintenant, on change tout ça, religion nouvelle, maintenant c'est un Dieu proche. Soit c'est que, en fait, effectivement, et je crois que c'est vrai, effectivement, le propre de Dieu, c'est d'être loin. Le propre Dieu, c'est de ne pas être mélangé à nous, si vous voulez. Dieu, certains théologiens, jusqu'au XXe siècle, ont dit, il est le tout autre, le totalitaire, alitaire. Et c'est même, je dirais, une des définitions de Dieu. Justement, Dieu n'est pas le terrestre. Dieu n'est pas le quotidien, Dieu n'est pas le conditionné, mais Dieu c'est l'absolu, c'est l'idéal, c'est l'inatteignable. Dieu c'est la transcendance. Dieu c'est ce qui nous dépasse ultimement, si vous voulez, c'est l'inconditionné, c'est l'unique incréé. Et si Dieu n'est pas cela, alors il n'est plus Dieu. C'est ce que dit le théologien que j'aime beaucoup, Paul Tillich, qui dit, en fait, la foi, dit-il, c'est la préoccupation ultime. La foi, c'est qu'est-ce qui, pour moi, est la chose la plus importante au monde. Et il dit, la foi vraie, c'est quand on se préoccupe ultimement de ce qui est, justement, ultime, ce qui est plus important que tout, au-delà de tout, Dieu. Et quand on se préoccupe ultimement de quelque chose qui n'est pas ultime, eh bien, c'est de l'idolâtrie. Alors, autrefois, c'était des statues. Aujourd'hui, c'est la santé, le succès, le travail, l'argent, ce que vous voulez. Donc, voilà. Et puis, surtout, il y a... Je vais essayer de vous prêcher un jour là-dessus. Et surtout, il y a ce que dit le grand saint Anselme, que nous aimons tellement avec Sophie, que c'est le prénom de notre fils aîné, que je salue s'il nous écoute, ce que j'espère. Anselme définit Dieu en disant « Dieu... c'est la chose la plus grande telle que je ne peux pas en penser une plus grande. » Voilà. Donc Dieu, c'est l'ultime, quoi. C'est-à-dire, c'est le top du top, le maximum du maximum. Et donc, effectivement, pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que moi, je suis petit, je suis faible, je suis mortel, je suis vulnérable. Mais en fait, c'est pas grave, puisque j'accroche ma vie à un Dieu sur lequel je me repose et qui, lui, est grand, qui, lui, est fort, qui, lui, est immortel. Et il me permet de participer à sa divinité en m'en donnant une part. Et si, en effet, Dieu est trop proche, alors il n'est plus rien. Si Dieu est juste un copain sympathique, des copains sympathiques, j'en ai plein. J'en ai pas besoin d'un de plus, si vous voulez. Mais Dieu doit être autre chose encore. Si Dieu est trop proche, s'il est comme moi, alors il risque de couler avec moi quand je coule, de mourir avec moi et tout sombre dans le relatif. Mais Dieu, pour me sauver, doit être le rocher, la forteresse inébranlable dont parlent les psaumes. Donc justement, il n'est pas comme moi, fragile, faible et où tout peut arriver. Moi, je suis mortel, mais Dieu n'est Dieu que s'il est immortel. Moi, je suis pécheur. Et lui, il est parfait. Moi, je suis faible, mais lui, justement, il est fort. Moi, je suis mortel, vous ai dit, lui, il est vivant et éternel. Moi, je suis jaloux, mais Dieu, il est pardon. En moi, il y a du tumulte, en moi, il y a des difficultés, mais lui, il est paix. En moi, il y a de l'injustice, de la violence, de la haine, de la jalousie, et lui, il est justice, pardon. Et c'est ça qui me sauve, parce que justement, je tourne ma vie vers ce qui n'est pas moi, et ce qui n'est pas comme moi, et ce qui n'est pas comme vous, parce que vous êtes finalement tous aussi un peu comme moi. Donc Dieu est très loin de moi, et c'est parce qu'il est très éloigné, parce qu'il est très loin, parce que lui est autant parfait que je suis imparfait, que Dieu peut me sauver. Il est autant fort que je suis faible, et c'est en cela qu'il peut me sauver. Et c'est vrai que, vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que c'est un problème qui me taraude, mais on m'avait appris dans mes études de théologie, quand on est confronté à des gens qui vraiment subissent un mal terrible, injuste, et ils disent « Mais où est Dieu dans cette épreuve terrible que j'ai ?» Et on m'a expliqué qu'il fallait leur dire « Eh bien Dieu, je ne sais pas où il est, mais il s'assied à côté de vous pour pleurer avec vous. » Ça me fait travailler parce que moi, si on me dit ça, alors là, je dis, mais je m'en fous de votre Dieu. Moi, je ne cherche pas quelqu'un qui pleure avec moi, je cherche quelqu'un qui me console, qui me relève, qui me soutienne. Mais il y a des gens que ça aide, alors si ça vous aide, très bien. Je le dis quand même, j'essaye de le glisser quand je vois des gens en problème. Je leur dis, Dieu s'assied pour pleurer avec vous. Je vois leur tête, si je vois que ça marche, je dis, ok, je reste là. Et s'il dit, ah oui, non, je dis, ben, à ce moment-là, je sors mon Dieu fort. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. En tout cas, si Dieu ne fait que de pleurer avec moi, bon. Déjà pas mal, mais moi je crois que j'ai plus d'ambition pour Dieu, voilà. Je pense que peut-être, je crois, oui, Dieu pleure avec moi. Mais en même temps, je crois qu'il peut me relever, me soulever, me ressusciter, me remettre debout, si vous voulez. Sinon, il n'est plus Dieu. Et donc, le Dieu qui coule avec moi, merci. Donc, heureusement que Dieu est lointain. Heureusement que Dieu est différent. Heureusement qu'il est transcendant. Heureusement qu'il est absolu. Heureusement qu'il est parfait. Sinon, il serait rien du tout. Et peut-être que voilà précisément la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça. C'est que c'est justement, ce n'est ni un Dieu trop lointain, qui finalement m'est indifférent, ni un Dieu trop proche, qui finalement ne me sert à rien, mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ce Dieu lointain, il s'est approché de vous. Ça me touche. Moi, je veux bien que Dieu pleure avec moi, s'il est fort, s'il est aussi faible que moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc c'est ça, c'est ce Dieu lointain, ce Dieu absolu, parfait, transcendant, c'est lui qui a tellement de tendresse et d'amour pour vous qu'il vient à vos côtés et qui se fait tout proche. Bon, ça peut être dit d'une façon théologique. Karl Barth. Je ne sais pas si je l'aime ou pas, Karl Barth, ça c'est un de mes autres problèmes, grand théologien du XXe siècle, je le déteste pour beaucoup de points, et il y a tellement de points où il est merveilleux. Karl Barth, justement, lui disait « Dieu est a priori totalement inconnaissable », le totalitaire, alitaire dont je parlais tout à l'heure. « Je ne peux rien savoir de Dieu, puisqu'il est la transcendance, par définition, Dieu est inatteignable ». Et Karl Barth disait « Je ne peux connaître Dieu que par la révélation en Jésus-Christ ». Et donc, c'est Dieu qui a bien voulu me faire connaître qui il est par la révélation. Et donc, c'est l'Évangile qui est le seul accès possible à Dieu. C'est ce que dit Barth. Bon, sinon, dit-il, il resterait totalement mystérieux. Alors, je suis à peu près d'accord, pas entièrement, parce que moi, je suis thomiste. Saint Thomas d'Aquin disait, si, c'est pas vrai, on peut connaître plein de choses sur Dieu par l'intelligence, par la raison... On ne peut pas tout savoir parce que Dieu dépasse notre intelligence, donc heureusement qu'il y a la révélation, mais je ne suis pas barthien, je crois qu'on peut quand même connaître certaines choses sur Dieu. Et là, je vais vous dire une chose, on avait fait des séances avec Florence sur la Bible et quelqu'un me dit, « Ah, monsieur le pasteur, ça m'a beaucoup intéressé tout ce que vous dites, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais ça m'intéresse. » Je me suis retenu pour lui dire ce que je vais vous dire, que je ne lui ai pas dit, mais je vous le dis là. J'ai failli lui dire, écoutez monsieur, je suis très touché d'abord que ça vous ait intéressé, je vous remercie, et vous avez évidemment la possibilité de ne pas être d'accord, mais en fait, si vous réfléchissez vraiment, vous ne pourrez qu'être d'accord avec moi. Et je crois que c'est vrai. Bon, je ne l'ai pas dit évidemment, mais en fait, oui, il y a de l'intelligence, il y a de la raison en théologie, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et c'est là où je suis thomiste, je crois que la raison humaine, elle est bonne, mais elle est incapable d'aller jusqu'au bout de la compréhension de Dieu, et effectivement, la révélation de Christ, c'est ça. Parce que par l'intelligence, je ne peux pas imaginer de savoir si Dieu m'aime ou pas. Ça, c'est Jésus qui me le dit. Et donc, je dis oui, amen. C'est ça la foi. Je crois dans la prédication du Christ, d'un Dieu lointain qui s'est approché. Et donc, ce Dieu lointain qui s'approche, c'est une merveille absolue. Ce Dieu qui pourrait me condamner et qui me pardonne. Ce Dieu qui pourrait m'ignorer complètement et qui, autrement, m'appelle par mon nom, comme on le dit au moment du baptême. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Il m'aime personnellement. Ce Dieu qui n'est pas insensible et intouchable, mais qui se rend proche. Et c'est ce Dieu dont parle également Paul, vous savez, qui dit « Ne dites pas qu'il montera au ciel », c'est en faire descendre le Christ, parce que Jésus est déjà descendu, donc c'est bon. « Ne dites pas qu'il descendra dans l'abîme », c'est faire remonter le Christ. Et il dit « Cette parole, elle est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur ». C'est merveilleux ce que dit là Paul. Et puis ce si beau chapitre d'Ésaïe 55, que je vous invite à lire, à relire, qui est absolument incroyable et qui mélange justement ces deux dimensions du Dieu infiniment proche quand il dit « Ô vous tous qui avez soif, venez à moi, sans argent, sans rien payer, tout est gratuit, tout est offert, mangez, vous vivrez » et qui dit « Cherchez Dieu tant qu'il est proche, cherchez Dieu tant qu'il est proche ». Et puis en même temps, il dit, mais Dieu dit quand même, mais vous savez, hein, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ma volonté est éloignée de la vôtre, et autant mes voix sont éloignées de vos voix. C'est-à-dire, Dieu dit quand même, bon, on est copains, mais je suis quand même, voilà, pas n'importe quoi non plus. Hein. Donc voilà, c'est important parce que proche de moi, il y a plein de choses en fait, et autour de moi, dans ma propre vie terrestre, il y a tellement de choses parfois terrifiante, parfois angoissante, parfois menaçante, et même autour de moi tant de choses ou de personnes qui peuvent me blesser, me rejeter, me faire du mal. Et en moi, quand je regarde en moi, dans ce terrestre, je ne vois parfois que de l'incertitude, de la crainte, voire des ténèbres. Et en fait, l'espérance, elle est loin, si vous voulez, c'est la lumière. La lumière, c'est loin, la consolation, la paix, la confiance. Tout cela sont des choses auxquelles j'aspire infiniment. Et qui ira me les chercher au loin, ces choses qui semblent si éloignées? Qui pourra me les apporter? C'est pas ici que je vais les trouver. Eh bien, voilà la bonne nouvelle. Toutes ces choses merveilleuses, normalement lointaines, normalement inatteignables, elles vous sont apportées toutes proches et données par le Christ, ou données par Dieu, comme nous l'enseigne le Christ. En Jésus, je le crois, en Jésus, Dieu s'est approché et par lui et en lui, tous les dons de Dieu sont là pour vous, offerts, ils sont là devant vous par grâce. Prenez et mangez, dit Ésaïe, venez vous qui avez soif gratuitement, tout est donné, ce Dieu lointain s'est approché et finalement je pourrais garder même que ces trois premiers mots de la prédication du Christ, finalement tout est là. Le royaume de Dieu s'est approché. Dieu est là. Amen. Et merci. Quelle grâce. Amen.